Je suis heureux de vous rejoindre et puis de répondre à la demande du Père François, que j'ai connu sur les bancs au séminaire. Lui était déjà prêtre, mais prétendant vouloir devenir prêtre, en tout cas travailler à Paris, il avait demandé à l'époque au cardinal Lustiger de pouvoir venir avec les séminaristes. Alors nous étions, nous, séminaristes, lui c'était le prêtre au milieu de nous, les étudiants. Et c'était très agréable de voir que quand on faisait des études, finalement ça pouvait aboutir. On voyait qu'il y en avait un qui avait réussi, donc ça nous donnait plein d'espérance. Voilà, puis donc c'était il y a 30 ans au moins cette affaire. Et puis depuis on est resté amis. Il a eu cette idée un peu saugrenue, un peu étrange, je ne sais d'où ça lui vient, de réfléchir à cette histoire de fin de vie, qui est effectivement une affaire d'actualité absolument étonnante, puisque c'est aujourd'hui même que le Conseil citoyen, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, la Convention citoyenne, a été reçue par le président de la République. Bon, on sent qu'il y a tout un rouleau compresseur qui est en train de se mettre en route depuis longtemps déjà. On est vraiment exactement, je commence direct, hein, enfin, Seigneur, je vous salue avec beaucoup d'affection, et puis on salue la Vierge Marie. On va dire je vous salue Marie quand même, et puis après, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. J'étais en train de vous dire, je vous parle très librement, avec mon cœur et puis l'expérience, et si possible avec l'enseignement de l'Église. Donc je ne viens pas vous dire ce que je pense moi, je viens vous dire ce que pense l'Église. Il se trouve que je suis très à l'aise pour le dire, parce que j'y adhère à 150%. Mais on est en train d'assister avec... les mots utilisés dans les médias, dans la société, sur cette fin de vie, exactement à la même manipulation que ce qu'on a eu pour l'avortement. Et au fond, c'est très intéressant de voir que c'est exactement, au fond, la même analyse. On ne choisit pas sa naissance, bien exactement comme on ne choisit pas sa vie, sa mort. Et vraiment, déjà, ce parallèle est étonnant. Or, regardez comment désormais les naissances sont... je dirais pas forcément manipulé, mais en tout cas sont... si, on pourrait dire manipulé, même si c'est fait avec bienveillance, et si c'est une technique scientifique médicale extraordinaire. C'est complètement acquis dans notre société qu'on peut faire fabriquer des petits bébés, on peut même les congeler. Ça choque qu'à moitié, parce que comme il y a une énorme émotion derrière et une grande demande, et puis qu'il y a un profit considérable, il y a quelque chose de très fort qui se met en place, et puis voilà, puis on nous prend par les sentiments. Et c'était drôle, parce qu'avant d'arriver, j'écoutais Europe 1, et il y avait donc un débat entre une médecin, qui est évidemment contre l'euthanasie, et puis un député. Et le député, sans se rendre compte, il a dit, mais voyez, finalement, il faut légaliser l'euthanasie, comme Madame Veil avait légalisé l'avortement, puisqu'à l'époque, il y avait des avortements clandestins. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 2000 ou 3000 euthanasies clandestines. Donc, il faut, plutôt que de laisser les gens aller à l'étranger, on a exactement les mêmes arguments. Puis, il ne se rendait pas compte qu'il se condamnait lui-même. Parce qu'effectivement, Madame Veil, elle avait fait une loi pour l'avortement. C'est en dépénalisant l'avortement. Aujourd'hui, c'est devenu un droit et on n'a même plus le droit de dire qu'on est contre. Enfin, si on... C'est interdit par la loi d'empêcher quelqu'un ou de déconseiller à quelqu'un de pratiquer un avortement. Et donc on a exactement le même, on va avoir le même schéma. Aujourd'hui on nous prend par les sentiments sur la fin de vie. C'est évident que la faiblesse allant, les intérêts aidant, l'émotion, on n'arrivera pas à freiner. D'autant plus que on en a la preuve dans les pays qui l'ont déjà fait, style la Belgique. Qui est quand même habitué depuis 20 ans. Donc il suffit de regarder où ils en sont. Ben, ils en sont aujourd'hui à euthanasier des mineurs ou des personnes handicapées. Avec bonne conscience et puis en mettant des garde-fous, soi-disant. Bon. Donc on est devant un sujet social et il est bon que l'Église s'en charge, vous voyez, le prenne en main. Il est excellent que dans une paroisse où on évoque la miséricorde, on puisse y réfléchir. Parce qu'au-delà d'un débat politique, ou éthique, on est vraiment devant un témoignage chrétien. à mener. Parce qu'au fond, ce qui est derrière, c'est quel est le regard qu'on a sur l'humanité, quel regard on pose sur l'être humain. Si on a le même regard que sur la gratuité d'une naissance, on va avoir le même regard sur la gratuité d'une mort, enfin, vous voyez, ou le mystère d'une mort. On a le mystère de la naissance, on va avoir le mystère de la mort. Alors après, il est très clair, et l'Église n'a jamais hésité à dire qu'on devait forcément lutter contre la souffrance. Il n'y a aucun intérêt à souffrir. Enfin, le bon Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut fuir la souffrance en toutes circonstances. On est aussi un petit peu dans une société un peu bisounours où dès qu'on a écrasé une mourche, il faut mettre une cellule psychologique en action. Et on a une résilience qui est quand même un petit peu diminuée. On ne sait plus souffrir. Or, la souffrance fait partie de la vie. Enfin, malheureusement, ça fait partie de la vie. Bon, alors, il y a un seuil de tolérance. Et quand on est en fin de vie ou quand on est dans un état de souffrance extrême, l'Église n'a jamais craint de dire qu'on devait lutter contre la souffrance. Mais de là à pousser le bouchon jusqu'à oser dire que pour abréger la souffrance, il faut interrompre la vie, là, on dit non. C'est pas possible. Alors, le débat aujourd'hui, il est sur le suicide assisté ou l'euthanasie. Et puis, un petit peu en controverse ou en parallèle, mais c'est vrai que le débat serait différent s'il y avait les soins palliatifs de façon un peu plus démocratisée, si je pouvais dire, d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire, mais rendus plus faciles. Vous savez qu'il y a à peu près 300 000 personnes en France qui, aujourd'hui, nécessiteraient des soins palliatifs. Et il n'y en a que 100 000 qui peuvent en avoir. Donc il y a 200 000 personnes, au moment où je vous parle, en France, qui sont en fin de vie, que la médecine, la sécurité sociale sait devoir normalement orienter vers des soins de confort, on ne peut plus les traiter de façon curative, eh bien on ne peut pas les accueillir. Soit parce qu'ils sont dans un département français, il y a 21 départements français où il n'y a pas de soins palliatifs, donc on ne peut pas les accueillir. Soit il n'y a pas assez de place, style à Paris, où on est sur une liste d'attente, pour rentrer dans une unité de soins palliatifs. On peut être fiers, nous les chrétiens, parce que c'est nous les premiers qui avons monté une maison à Paris avec la maison Jeanne Garnier. Bon, c'était évidemment sous l'impulsion du cardinal Lustiger, qui avait déjà eu la même, vous voyez, le même élan intérieur, mais qui est dû à la miséricorde, qui est dû vraiment à la pratique de l'Évangile, à la manière d'écouter notre implication chrétienne dans le monde, et qui avait eu la même intuition sur les malades du sida, où à l'époque on croyait que le sida était contagieux, c'était une maladie mortelle, on pouvait pas le guérir, enfin c'était épouvantable, en plus c'était plus ou moins lié à des histoires sexuelles, donc moralement parlant c'était un tabou dingue, et il est le premier à avoir à l'époque monté une association et un lieu d'accueil des malades qui avaient le sida, voilà, considérant que c'était quand même des êtres humains, quelle que soit la maladie. Bon. Aujourd'hui on en est à pouvoir très probablement bientôt avoir un vaccin contre le sida, donc c'est extraordinaire, en tout cas les gens sont traités. Et bien, on pourrait dire que, par exemple, un malade du sida, aujourd'hui, il bénéficie de soins palliatifs. C'est-à-dire de soins de confort qui fait qu'il n'est pas guéri du sida, mais il vit avec. Et il a une vie normale. Ça, c'est du palliatif. Il faut qu'on corrige dans notre intelligence la perception des choses sur le palliatif. Quand vous entendez dans votre famille qu'un tel est entré en soins palliatifs, on le décode immédiatement comme c'est qu'il est en fin de vie et que dans la semaine, il va mourir. Mais ça, c'est parce que comme on manque de place dans les unités palliatives, évidemment, quand le malade y rentre, c'est pour pas y rester très longtemps. Mais s'il y avait le nombre de places suffisantes en France pour pouvoir accueillir les soins palliatifs, on pourrait être plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années en soins palliatifs. C'est le cas des malades du sida. Ils sont pris en main par la médecine, ils ont des soins qui ne sont pas curatifs, ils vivent avec la maladie, mais on trouve le moyen soit d'atténuer la maladie, soit en tout cas de leur donner des soins de confort qui font qu'ils vivent très bien. Ça, c'est le palliatif. Alors évidemment, on est confronté à des difficultés psychologiques compliquées parce qu'un médecin, il a fait des études pour guérir et ils ont très peu fait d'études pour ne pas souffrir. J'ai une expérience personnelle, on s'en fiche, mais qui je trouve est très, très enfin... comment dire, très exemplaire. Enfin, bon, j'ai eu un accident de moto, j'ai des parents médecins, j'ai été soigné par un chirurgien orthopédique, et j'ai une petite sœur qui travaille, elle, qui est chirurgien dans le cœur et le thoracique. Alors évidemment, je lui ai fait confiance, machin, bon, les choses se font. Et j'ai eu un mal de chien, à ma jambe dans les heures qu'ont suivi mon opération. Bon, et voilà, et alors je pestais dans mon lit en disant, enfin, comment se fait-il que j'ai si mal? On devrait pouvoir... Et ma petite sœur, qui est donc un peu spécialiste dans le cœur et les poumons, a donc téléphoné à l'anesthésiste et puis a négocié avec l'anesthésiste de me shooter un peu plus. Et puis bon, voilà, très bien, l'anesthésiste l'a faite, puisque ma sœur était dans le coup, qu'elle savait les doses qu'il fallait faire, qu'elle machin, tac, tac, tac. Et donc je dis à ma sœur, mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu interviennes? Enfin, les internes, les médecins, les infirmières, ils le savent, ils sont habitués, c'est quand même pas un cas unique, avoir le genou cassé quand même. Et elle me répond, non mais tu sais, il faut comprendre qu'en France, la souffrance, on ne sait pas la gérer. Or, un orthopédiste, il soigne les os, il sait que tu vas avoir mal, il a du mal à évaluer la douleur, mais de toute façon, il sait que ça va passer, ça dure 24 heures. Et comme il a l'habitude de voir les malades qui souffrent et puis qui, de toute façon, trois jours après, sont en pleine forme, sont heureux, marchent, le remercient, ils disent « Docteur, sans vous, j'aurais pas pu », on n'a pas intégré le fait qu'on pouvait shooter la douleur. Alors qu'elle me dit, moi, dans ma spécialité, comme je soigne le cœur, le malade, on est devant un cas de vie où il peut mourir dans la seconde, je ne peux pas imaginer qu'il faille, qu'en plus, il se batte contre la douleur. Donc, dans ma spécialité, on est habitué à shooter le malade, pour qu'il n'ait qu'à se battre pour la vie, et non pas, en plus, contre quelque chose. Donc, elle me dit, nous, on sait faire, parce que ça rentre complètement dans notre mécanique médicale, mais il y a plein d'autres domaines où on ne sait pas. Bon, c'est exactement comme vous avez très mal au dos, puis on vous dit, bah, prenez un Doliprane. On est dans une médecine où on sait guérir, on ne sait pas vraiment lutter contre la souffrance. C'est ça les soins palliatifs. Un étudiant en médecine, il passe 6 ou 8 heures dans ses 10 ans d'études pour aborder la question palliative. Bon, donc c'est rien, hein, vous voyez. Alors après, c'est sur l'expérience du quotidien à l'hôpital qui fait qu'il va savoir un peu ce qu'il faut faire. Or, c'est vraiment ça devient une spécialité que d'être capable de gérer le confort d'un malade. Et la médecine peut s'approprier cette connaissance médicale, physique, physiologique, psychologique, pour que le malade puisse vivre en contrariant la douleur ou bien l'inconfort que la maladie peut introduire. Vous avez des gens qui aujourd'hui vivent avec le cancer. On sait leur donner finalement un traitement qui fait que pendant 20 ans, ils vont avoir leur tumeur. Mais on a endormi la tumeur et puis voilà, ils ont une tumeur. Mais cette tumeur ne les tue plus. Il y a 4 ou 5 ans, cette tumeur les aurait tués. Aujourd'hui, on sait lutter contre. On ne les guérit pas, mais ils vivent avec. On est dans le palliatif, là. Vous voyez, il faut qu'on réussisse à entendre que le palliatif, ça n'est pas la dernière ligne droite de la mort, mais c'est le confort apporté par la médecine dans les circonstances de notre vie. Et là, l'Église, elle a une place absolument extraordinaire. Parce que c'est le regard qu'on va poser sur la personne, évidemment la personne humaine, qui va être déterminante. Quand on nous parle aujourd'hui du suicide assisté, mais on devrait hurler. Alors on me dirait, on ne peut plus hurler, parce que de toute façon, les mots n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Le mariage, on ne sait plus ce que ça veut dire. Un enfant avec un papa, une maman, deux papas, trois papas, on ne sait plus. Enfin, vous voyez, on est dans une société où de toute façon tout est mélangé. Puis alors, avec un grand sourire, on nous fait avaler des couleuvres, mais qui sont gigantesques. Alors, on nous parle du suicide assisté. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, le suicide, c'est quelque chose d'épouvantable. Et là, on est en train de le gober comme si c'était quelque chose de vraiment presque souhaitable et il faudrait que la loi l'autorise. Vous voyez l'incompréhension et l'incohérence des choses. Jusqu'à preuve du contraire, si vous avez quelqu'un qui vous annonce qu'il va se suicider, vous avez le devoir de l'en empêcher. Et d'ailleurs, si jamais on prouve que vous n'avez rien fait alors qu'il vous avait alerté, vous êtes condamnable. Parce qu'il y a non-assistance à personne en danger. Et là, on voudrait faire passer dans la loi le fait qu'il faut aider la personne à se suicider. Donc ça devient complètement... on est ma boule. Du même combat... que je vis, je ne me suis pas présenté, pardon, mais Laurent l'a un peu dit, moi je suis aumônier à l'hôpital Cochin et Port-Royal. La maternité de Port-Royal, mais c'est la planète Mars. C'est exceptionnel. Ils accueillent des petits bébés prématurés, c'est le lieu de la réanimation le plus poussé en prématuré. Donc ils accueillent des bébés de 5 mois qui font 500 grammes. Donc on a des petits êtres humains qui tiennent dans la main 500 grammes et qu'ils font vivre. Et ils se battent, et c'est exceptionnel. Avec des tuyaux, on les voit à peine, enfin, il faut une loupe ou un microscope pour voir les petits tuyaux qu'on réussit à mettre dans la narine du bébé, machin, bon, très bien. Les veines d'un bébé de 500 grammes, allez les trouver. Bon, voilà, alors c'est dans des conditions complètement folles, mais Et puis l'étage du dessous, ben, ils avortent des bébés de 700 grammes, 1 kg, 2 kg. Mais on devient ma boule. Et moi, je vois très bien qu'il y a une sorte de... L'intelligence se heurte à cette incohérence. Alors évidemment, pour étouffer l'intelligence et le combat et la crise de conscience, ben, on trouve des sigles, des mots, on parle d'un IVG, d'un IMG, et puis on essaye d'étouffer tout ça avec l'émotion. Bon, donc, on passe vite, quoi. Et puis on réfléchit plus. Mais si on prend le temps de réfléchir, et si vous vous retrouvez au restaurant avec une bonne pizza, une bonne bière, et puis que vous faites réfléchir les médecins, vous les mettez très mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas sur le regard humain. Le seul moyen de s'en sortir, ça va être de dire la liberté. Le choix des parents, ou l'éventuelle souffrance de l'enfant. Mais c'est présumer la souffrance d'un enfant que de croire que... Il va souffrir toute sa vie. Il y a des enfants handicapés qui sont très heureux parce que simplement ils sont aimés. Et qui sont. Ils vivent au maximum de ce qu'ils peuvent vivre. Alors bien sûr, ils pourraient être jaloux, ils n'ont pas de jambes, ils auraient aimé avoir des jambes, bon, bien sûr. Mais enfin, c'est la capacité d'aimer qui va tout bouleverser. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'attend un mourant? Mais il attend qu'on l'aime, qu'on lui tienne la main, qu'il ne souffre pas et qu'on lui tienne la main. Et la preuve, c'est que quand vous passez les gens qui souffrent et qui sont en fin de vie en soins palliatifs, ils ne demandent plus à mourir. Alors là, les statistiques sont complètement incroyables. C'est du 80 à 90%. Hein. La personne qui était un peu enfermée dans son raisonnement, qui souhaitait la mort parce qu'elle était dans une impasse par la souffrance, par l'indignité qu'elle imaginait d'elle-même, à cause de sa maladie, à cause du regard de la société sur elle, à cause de son abandon de la famille, à cause, bon, très bien, des tas de choses très douloureuses. Bien, cette personne, si vous la passez en soins palliatifs, et donc si vous la faites, si vous déchargez le poids de la souffrance, elle ne demande plus à mourir. C'est bien la preuve que le cri qui est dans le cœur de l'homme, ça n'est pas le souhait de la mort, c'est le souhait de la vie, laquelle vie, il faut qu'elle soit portable. Il faut qu'on puisse quand même la porter. Et quand on ne peut plus, ben... Alors après, on rentre dans des cas très, très particuliers. C'est compliqué de... Vous savez qu'aujourd'hui, la vie est très médicalisée. C'est compliqué de définir la mort. C'est très intéressant, quand on est à l'hôpital, on ne sait pas très bien quand est-ce que quelqu'un est vraiment mort. À quelle seconde la personne est morte? On ne sait pas. Il y a une sorte de marge. Bon, il y a le scope qui laisse entendre que le cœur est à plat, bon. Mais même un scope qui montre une ligne horizontale, c'est un cœur qui continue de battre un petit peu, mais il bat plus suffisamment pour irriguer, et bon, très bien, donc c'est le cerveau qui va être flingué, tout ça. Mais à quel moment la mort est présente? Un cœur peut continuer de battre, mais finalement le cerveau est à plat, donc on dit mort cérébrale. Bon, et puis finalement, les organes continuent de fonctionner, alors ils sont aidés plus ou moins par des médicaments, par des machines, mais c'est très difficile de définir la mort. Et la définition d'ailleurs change en fonction des époques. Alors, pour y arriver, on met plusieurs protocoles. Voilà, on va déclarer quelqu'un de mort après avoir fait deux essais à l'espace de 4 heures, deux électroencéphalogrammes ou deux électrocardiogrammes. Il faut que ce soit les mêmes en l'espace de 4 heures. Et puis, il y a différents signes cliniques qu'on va vérifier. Puis, une fois qu'on a vérifié ces signes cliniques et qu'il y a eu le laps de temps, on dit, bon, la personne est morte. Bon, et de fait, à l'évidence, on voit bien que la personne est inanimée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Mais la mort, entre la séparation du corps et de l'âme, allez savoir quand c'est que ça se passe. C'est pas... C'est compliqué. Et du coup, notre humanité, sa dignité, elle est de l'accompagner, et non pas de la provoquer. C'est extraordinaire de voir qu'au fond, derrière, vous avez le regard sur l'humain. Vous voyez, sans... Alors évidemment, je voudrais choquer absolument personne, mais il faut aussi qu'on ait quand même le courage de regarder les choses. Les fécondations in vitro, la manière donc de faire des fécondations dans des petits tubes à essai, ça a été inventé par les vétérinaires. Parce que ça n'était pas choquant de prendre des gamètes d'animaux, de faire des essais, de rater, de les mettre à la poubelle, de recommencer, bon... Et puis, c'était pas très choquant de se dire qu'on allait améliorer la race des bovins pour qu'on ait une viande meilleure, pour qu'ils soient plus résistants à telle maladie, pour que les taureaux soient meilleurs. Enfin bon, donc on faisait des... De tout temps, on a couplé les races ou les espèces pour essayer de les améliorer. Bon. alors qu'on le fasse de façon naturelle parce qu'on va chercher tel taureau dans tel pays et puis qu'on le met dans le troupeau des vaches pour qu'il y ait un couplement entre... Et puis finalement, on va le faire maintenant de façon un peu plus artificielle parce qu'il suffit d'aller chercher le sperme du taureau plutôt que d'amener le taureau. Bon. Et puis on va inséminer la vache ou bien on le fait dans des laboratoires. Bon. Cette technique-là, elle a été inventée par les vétérinaires. Et ça me va très bien. Ça me gêne quand on commence à être tenté de le faire pour l'être humain. Parce que, bah, justement, on n'est pas un être humain, on n'est pas un animal. Et il y a un moment donné où on a basculé, parce que la tentation est immense, et le besoin est très grand, et l'argent derrière est énorme. Eh bien, on est à peu près pareil, vous voyez, sur le même combat. Mais qu'est-ce qui nous distingue de l'animal? Mais c'est qu'un animal, on peut le piquer. Ah, ça nous fait pleurer, bon, on va trouver des... Voilà, vous avez un chien, il souffre, le vétérinaire vous dit on ne peut plus rien, bon, on le pique. Oui, il y a un lien au chien, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un chien. C'est pas très gênant. On n'abîme pas la race canine en tuant le chien. Mais on abîme l'humanité en tuant un homme. Même si c'est avec de bonnes raisons. On est en train de perdre ce qui fait la dignité de l'être humain. Et d'ailleurs, on se bat pour la dignité de la mort. Or, le véritable enjeu, c'est la liberté, c'est pas la dignité. Pourquoi est-ce que la personne n'aurait pas une mort digne? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une mort digne? Ben, c'est de mourir comme un être humain. Donc sans souffrance, très bien. Ils sont rarissimes les cas qu'on ne peut pas calmer dans la douleur. Rarissimes en médecine. Et aujourd'hui, la loi Claeys-Néonetti autorise, quand on est devant un cas rarissime, à provoquer une sédation longue et prolongée. Donc on endort définitivement la personne. Donc elle ne souffre pas. Et on sait qu'elle va mourir... En un jour, deux jours, trois jours, d'autant que les produits qu'on met, forcément, accélèrent la mort. Mais l'objectif, c'est qu'elle ne souffre pas. Donc, qu'on cesse de nous prendre par les tripes en nous faisant croire que c'est épouvantable. En revanche, on peut avoir des gens qui souffrent psychologiquement parce que leur état est dur à vivre, parce que la société ne les accueille pas comme il convient, parce que... Bon. Mais c'est quoi la dignité d'une mort? C'est d'être aidé dans son suicide? C'est d'être piqué par un médecin ou une infirmière? C'est épouvantable quand on prend conscience de ce que ça signifie. Et d'ailleurs, les médecins ne sont pas d'accord. Les vrais médecins, alors pardon de dire les vrais, ça voudrait dire qu'il y a des faux, mais c'est complètement idiot de dire ça. C'est la majorité des médecins, ils ont fait des études pour que les gens vivent, pas pour les tuer. Alors évidemment, c'est pas les tuer avec méchanceté. C'est leur provoquer la mort pour les libérer. Bon. Mais c'est complètement contraire à leur énergie, à leur souffle. Et en réalité, vous portez atteinte à la dignité d'une personne quand vous l'aidez à mourir en la tuant. C'est qu'au fond, elle devient un numéro, elle devient un peu anonyme, elle n'est plus une personne humaine. Elle devient un être dans une espèce. Et du coup, vous abîmez l'espèce, enfin l'espèce humaine. Alors que d'accueillir la mort, qui est un mystère, d'être humble devant la mort, de la laisser venir, de l'accompagner pour que la personne ne souffre pas, mais qu'elle ne meure pas précisément comme un chien, ben c'est là qu'il y a toute la qualité de l'humanité. Et donc si Monsieur le Président de la République voulait faire une loi française pour la fin de vie, eh bien on serait bien honoré d'être un pays qui puisse dire « on ne donne jamais la mort, on l'accompagne ». Vous voyez, on ne provoque pas la mort, on la laisse venir, parce que c'est ce qui fait la différence avec les animaux et notre relation à l'animal. L'être humain, on l'assume. Alors évidemment, hein, si vous mettez le déficit de la sécurité sociale en jeu, c'est sûr, une euthanasie, ça coûte 100 euros. En gros, hein, ça va coûter 100 euros... Le cocktail lithique, l'injection, les soins qui sont en travers. Et ça dure un quart d'heure. C'est sûr que si vous gardez la personne en vie dans un lit de soins palliatifs, ça vous coûte des centaines de milliers d'euros. Enfin, si on commence à évaluer le prix de la vie humaine, on est foutu. C'est tout notre honneur que d'être capable d'accompagner la mort. Et non pas de la donner. Derrière ça, quand vous évoquez la miséricorde, il y a un lien peut-être un peu tiré par les cheveux, bon, parce que c'est le souci de votre paroisse, mais vous savez que les deux noms de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est d'être miséricorde et fidélité. On dit que Dieu est amour et fidélité. L'amour, c'est effectivement la force de la vie. Donc, quand on aime, ça veut dire qu'on dit à l'autre, je ne te veux pas mourir. Je te veux du bien qui te fasse vivre. Aimer quelqu'un, c'est le faire vivre. C'est ce qui se passe de façon exceptionnelle quand on découvre deux fiancés qui il y a cette étincelle d'amour qui commence dans leur cœur et c'est incroyable de voir l'énergie qui les habite. Ils se sentent capables de traverser la planète pour aller embrasser l'autre. Bon, ça ne va pas durer, mais aimer quelqu'un, c'est le vouloir vivant. Bon, c'est exactement ce que Dieu est devant nous. Dieu nous transmet sa vie et Dieu, quand il dit qu'il nous aime, c'est pas qu'il a des guili-guili dans son corps quand il nous voit, parce que Dieu n'a pas de corps, mais c'est qu'il nous veut vie. Bon, et c'est ce qu'il va nous offrir là dans la passion et la résurrection. L'amour de Dieu sur la croix, c'est de traverser la mort pour que nous puissions vivre, nous. Et la fidélité, qu'est-ce que c'est que Dieu fidèle ? Eh bien, c'est précisément Dieu qui veut qu'à travers le temps, nous puissions accomplir notre être. Et comment est-ce qu'il accomplit ? Dans la notion de fidélité, il y a une notion de présence. Qu'est-ce que c'est qu'un ami fidèle ? Eh bien, c'est un ami présent. Qu'est-ce que c'est qu'un époux fidèle ? C'est un époux présent. Pas forcément présent physiquement, mais présent intérieurement. On peut, avec un ami, ne pas s'être vu pendant 10 ans, peut-être même ne pas s'être téléphoné, et au bout de 10 ans, on se revoit comme si on s'était jamais quitté. Eh bien, ça, c'est qu'on est habité par une certaine fidélité. Alors, vous avez des fidélités un peu automatiques, bon, qui sont des grâces, des cadeaux. Puis sinon, la fidélité, elle s'entretient, elle se travaille. Quand on dit que Dieu est fidèle, ça ne sous-entend pas que Dieu aurait eu la tentation de nous tromper. Absurde. Ça veut dire que Dieu est présent. Un ami fidèle, c'est un ami présent. Eh bien, génial. Face à la mort, ce dont on a besoin, c'est d'une présence. 70% des personnes aujourd'hui dans notre pays meurent à l'hôpital. Parce que tout est tellement médicalisé, comme la naissance. C'est impressionnant de voir à quel point on rentre dans un cadre médical pour la naissance d'un petit bébé, qui n'est pas une maladie. Hein. Alors, c'est bien qu'il y ait évidemment des préventions, moi je vois bien la différence quand on va à la maternité. On a des mamans qui sont en pleine forme, des petits bébés qui sont en pleine forme, et on n'a que des sourires. Puis le bâtiment d'à côté, c'est l'oncologie, on a des gens qui sont malades. Après, évidemment qu'il peut y avoir des maternités douloureuses ou difficiles ou malades. Bon. Ben, très bien, la médecine les prend en charge. Mais... J'ai perdu mon idée du coup, mais c'était avec l'histoire de la présence. Qu'est-ce que c'est que... De quoi a-t-on besoin quand on est au moment de la mort ? Ah oui, je vous disais, 70% des personnes meurent à l'hôpital, parce que donc notre société est une société très médicalisée, et que quand la personne va commencer un petit peu à souffrir, on va d'emblée déclencher des secours légitimes, et ces secours font que, on transporte la personne à l'hôpital. Elle passe par les urgences. Si elle n'est pas morte aux urgences, c'est qu'elle a déjà pas mal de force de vie. Hein. Et puis, après les urgences, on va essayer de la caser quelque part. Et puis, les gens vont mourir à l'hôpital. Alors, soit ils ont la chance d'avoir de la famille, de l'entourage, des soignants. J'étais très impressionné, il y a un peu moins d'un an, en réa, à Cochin, une dame qui était justement seule. Enfin, les soignants sont des humains merveilleux, hein, si vous savez réveiller en eux leur humanité. Après, évidemment, ils sont pris dans un rythme de pression, de fatigue, de responsabilité. Mais en réa, c'est le lieu par excellence où on se bat pour la vie et où on est confronté à la mort. Eh bien, il y avait une dame qui était en réa et qui n'avait aucune relation. Personne de sa famille n'était venu, rien. Enfin, voilà. Donc un être humain seul. Eh bien, les soignants n'ont pas supporté qu'elle meure seule. Et donc ils sont restés dans sa chambre. Alors ils m'ont téléphoné parce que je ne sais pas quoi, il y avait un lien, ils avaient su. Bon, donc moi je me suis un peu précipité pour arriver. Et puis je savais que c'était douloureux, difficile. Et quand je suis arrivé, ils étaient 3 dans sa chambre. Je dis, incroyable. Et puis voilà, donc je donne le sacrement des malades à cette personne, l'extrême onction. Et puis ils me disent, elle va mourir. Enfin, heureusement que vous êtes arrivé parce que c'est vraiment limite. Bon, je leur dis, je peux rester avec vous. Enfin, je ne me sentais pas moi non plus de les laisser tomber. Et donc on a assisté à la mort de cette personne. Et en sortant de la chambre, une fois que la personne est morte, je les ai félicités. Je leur ai dit, mais je suis impressionné de ce que vous soyez resté. Il y a 21 autres malades qui sont branchés, qui risquent de mourir. Oui, mais là, c'était elle qu'il fallait qu'on accompagne. Magnifique. Alors après, évidemment, là, vous êtes dans un service où on se bat pour la vie et où ils savent assumer ce combat. Vous voyez, ils sont pris en charge. Il y a une psychologue qui les prend en main. Quand vous êtes dans un autre service d'hôpital, un peu plus lambda, entre guillemets, et qu'il y a quelqu'un qui va mourir, le personnel est désarçonné, donc ils n'osent plus rentrer dans la chambre. Ça leur fait peur, la mort fait peur. Donc ils savent que la personne est un peu en train d'agonir, ils vérifient qu'elle ne souffre pas, donc on a mis les doses qu'il fallait pour que la personne soit bien shootée, mais il n'y aura pas cette présence fidèle, vous voyez, qui fait que vous mourrez comme un être humain. Un autre lieu qui m'émerveille à l'hôpital et qui montre qu'on est chez les humains, c'est la chambre mortuaire. Alors le nom est lugubre, je trouve. Mais je ne sais pas comment appeler ça autrement. Et puis quand on vous dit rendez-vous à la chambre mortuaire, c'est que c'est pas très enthousiasmant. Enfin, la plupart des gens vont finir là. Et le personnel de la chambre mortuaire, il est incroyable. Ils prennent soin d'un cadavre et d'une personne humaine. Et on voit bien qu'ils en prennent soin. Alors, ils sont habitués. Et surtout, ils considèrent que c'est un patient. Ils disent, mais attendez, on est à l'hôpital. C'est pas, la personne est morte à l'hôpital, mais tant qu'elle n'est pas sortie de l'hôpital, elle est sous notre responsabilité. Et donc, ce sont des infirmiers. Ce sont des gens du personnel médical qui ont fait une spécialité, qui sont rentrés et qui désormais sont validés pour s'occuper des corps. Et il faut voir là. Enfin, je suis admiratif devant leur travail et d'une certaine façon leur joie de vivre, qui est quand même surprenante. Parce qu'ils n'accueillent que des gens qui sont en larmes, que des gens qui ont toujours un peu les mêmes questions et qui apparaissent dérisoires, mais qui sont essentiels quand nous on est confrontés à la mort dans l'urgence, eux ils sont habitués. Et puis ils présentent un membre de la famille, ils essayent de le présenter dans les meilleures conditions qui soient. Ils répondent à toutes les demandes possibles et imaginables, qui sont souvent des demandes affectives. Dans l'émotion, on veut mettre telle peluche, tel machin, dans le cercueil, tel dessin, tel... ça paraît un peu dérisoire, mais ça a un poids. Là, on est chez les humains. C'est magnifique. Si en plus, vous y mettez une dose de vie spirituelle, ce qui est absolument indispensable. Je vois bien qu'ils ont plaisir quand on passe les voir et quand on vient rigoler avec eux. Mais vous voyez, ils comptent sur la dimension spirituelle. Il n'y en a pas un qui... Si, il y a une dame qui est des îles, qui est antillaise, je pense, donc qui est baptisée chrétienne sûrement, puisqu'elle m'a demandé de bénir son vélo. Elle est chrétienne. Les autres, je pense qu'ils sont sans foi ni loi. Mais le curé, ça se respecte. Et puis, ils sont pas contents quand je suis pas venu depuis un certain temps. Je peux même vous confier, ils m'ont fait un jour la confidence. Ça m'a fait assez rire quand même. Parce que, j'étais venu justement pour discuter avec eux, prendre un café, alors c'est un peu étrange quand même, parce que vous avez le corps de quelqu'un qui est dans la pièce d'à côté et qui sont en train d'habiller. Puis voilà, ils font une pause pour... très bien, c'est la vie. Et ils me disent, pourquoi vous n'êtes pas habillé comme les curés ? Je dis, dites donc, vous êtes culotté quand même, vous ne trouvez pas que je suis bien habillé quoi ? Non, mais de temps en temps, deux fois par an, on a le moine bouddhiste là qui vient, il est tout en orange. Et vous, regardez, on ne voit pas. Donc c'était les païens de l'hôpital qui demandaient que je mette la soutane. Non, mais je vous assure, je me suis frotté les yeux. Et je leur dis, mais de quoi vous parlez ? Vous parlez de la soutane ? Oui, c'est ça, on voudrait votre robe. Je dis, vous savez, c'est compliqué de porter la soutane aujourd'hui. On est très vite un peu catalogué. Je pense que dans les couloirs de l'hôpital laïque, il y aura forcément des gens que ça va un peu agacer. Et puis surtout, la vraie difficulté, elle va venir de l'église. Je vais me faire flinguer par mes confrères ou par les fidèles catholiques, mais qui n'aiment pas la soutane. Écoutez, c'est pas grave, vous avez qu'à la laisser au vestiaire chez nous. Et puis comme ça, quand vous venez chez nous, vous la mettez. Et puis, on a besoin de vous voir en curé. Hallucinant. Tout ça pour vous dire que dans ce milieu où on touche à la mort, on a besoin de l'au-delà. Vous voyez, même s'ils n'ont pas la foi, il y a une trace de l'espérance. Précisément ce que l'euthanasie va flinguer. Quand on va prendre la responsabilité, qu'on va diluer de façon collégiale, parce que c'est trop dur de prendre la décision tout seul d'interrompre la vie de quelqu'un. Donc on va diluer la décision, on va mettre une collégialité. Donc on va dire il faut qu'il y ait le psychologue, un membre de la famille, quelqu'un qui est représentant d'une association dont la personne a la maladie, quelqu'un du milieu médical, une infirmière, entre bien. On va mettre 10 personnes autour de la table. Et puis, il faudra que sur les 10, il y en ait 8 qui soient d'accord ou 7 qui soient d'accord pour que, on interrompe les soins. c'est une manière de diluer la responsabilité et de prendre la décision. Mais on a du mal à prendre une telle décision. Et la personne à qui revient la tâche d'appliquer la décision, et c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et on voit bien que on se fait croire qu'on libère quelqu'un d'une maladie ou d'une mort probable, mais on empoisonne quelqu'un d'autre. Bon, sauf si vous n'avez pas de conscience ou qu'on a réussi à tordre la conscience. Et là, nous, l'Église, on a vraiment un rôle essentiel du regard que l'on a sur les gens. Je vous disais, on met en avant la dignité de la personne. Eh bien, il faut bien prendre conscience que la dignité, elle appartient à l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa fin de vie, C'est parce qu'il est humain qu'il est digne. Ça n'est pas parce qu'il pèse 50 kilos et qu'il est maquillé, qu'il est beau et que je ne sais pas quoi, ou qu'il n'a pas telle maladie. C'est parce qu'il est humain. La dignité, elle nous est propre. Ce n'est pas la manière dont les autres nous regardent qui nous accorde une certaine dignité. Précisément, on va la perdre en proposant aux gens soit de les aider à mourir tout seuls, donc le suicide assisté, chose épouvantable. On n'est plus des humains à côté des autres. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le courage, la force, l'invention, l'inventivité de trouver une solution. Quand j'étais, avant d'être aumônier d'hôpital, j'étais aumônier dans les écoles. Donc je faisais du caté, et donc forcément cette question revenait souvent. Alors j'essayais de provoquer la réaction de l'intelligence des jeunes en leur disant « Mais écoutez, vous avez quelqu'un qui est subitement au pied d'un immeuble sur le trottoir et voilà, et qui est par terre. Bah, vous appelez les pompiers, non ? Enfin, c'est spontané. Alors les pompiers arrivent. Bon, vous entendez la sirène, ça vous rassure, parce qu'avant que les pompiers arrivent, vous êtes quand même très inquiet. Votre sang ne fait qu'un tour. Bon, alors les pompiers arrivent. Mais il y a quatre messieurs dans la camionnette des pompiers. Bon. » Alors, il y a deux qui ils ont chacun leur rôle. Il y en a un qui vient vous voir et puis qui vous demande. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Est-ce que cette personne lavait les carreaux au cinquième étage et elle est tombée par accident ? Ou bien est-ce qu'elle s'est jetée du cinquième étage ? Alors, vous allez dire, non, elle lavait les carreaux. Bon, alors, bon, très bien, on va la sauver parce qu'elle est tombée par accident. Mais si vous dites, non, elle s'est jetée du cinquième étage, j'ai bien vu. Ah bon, bah alors, il y a un pompier qui est fait pour l'achever. Puisqu'elle n'est pas morte. Il y en a un qui est là qui dit, ah bon, bah il faut qu'on l'aide à mourir. Il a manifestement posé un geste libre de sauter du cinquième étage, mais il s'est raté. Heureusement que les pompiers viennent pour le tuer. Mais du coup, on n'appelle plus les pompiers. Craignez d'aller à l'hôpital à partir d'un certain âge, hein, aujourd'hui. Mais ça fait peur, quand même. Hein. J'ai pas encore l'âge en question, alors bon, je me sens rassuré. Mais bon... Vous voyez, on se dit, mais on devient fou. Non, les pompiers, ils viennent, et puis ils ramassent la personne, ils vont se battre, spontanément, et puis ensuite, ben, si elle n'est pas morte tout de suite, on va d'abord essayer de la faire vivre. Puis ensuite, on va réfléchir. Bon, ben, elle s'est jetée du cinquième étage. Bon, ben, on va la mettre dans les mains d'un psychiatre, on va essayer de gérer la chose, on va voir avec sa famille ce qui s'est passé, enfin, où est-ce qu'il y a le conflit, où est le problème, et puis voilà. Puis si on peut faire vivre la personne, mais bravo, quelle société merveilleuse. L'autre société, elle est épouvantable. T'as un ami qui demande à se suicider, qui te propose de te donner rendez-vous en haut de la tour Montparnasse, puis qui te dit « Mais j'y arrive pas tout seul, est-ce que tu peux me pousser ?» C'est une véritable amitié que de le pousser. Bravo. Non, vraiment, vous êtes courageux. Hein. Oui, mais on renverse tout. Mais non, alors les jeunes, là, spontanément, ils sont pris entre la pression sociale des idées ambiantes, hein, et puis le raisonnement logique qui font que c'est génial de faire réagir en eux l'instinct et de leur faire réaliser à quel point leur instinct était un peu étouffé, quoi. Parce que du coup, il y a quand même ceux qui disent oh, « on va se faire avoir là ». Parce qu'ils sont quand même spontanément pour l'euthanasie, pour l'avortement, pour tout ça. Et quand vous les faites réagir et réfléchir, d'où la nécessité de réfléchir à froid, parce qu'on ne pourra plus réfléchir quand on sera pris dans des cas particuliers qu'immanquablement on va nous jeter à la figure et où du coup notre réflexion va être un petit peu anesthésiée. Mais il y a des principes auxquels on ne touchera pas. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la certitude qu'on peut s'en sortir. Mais il faut qu'on s'en sorte. Les soins palliatifs sont une situation exceptionnelle qu'il faut qu'on mette en avant. Et il faut qu'on ait un principe de vie qui fasse qu'on considère que ça n'est pas possible qu'un métier puisse donner la mort, quelles que soient les circonstances. La mort viendra en son temps. On peut malheureusement, par les soins qu'on donne, peut-être l'accélérer. Oui, c'est même certain. Mais ça n'est pas elle qui est poursuivie. C'est le confort du malade qui est cherché. Donc c'est un effet secondaire que la mort soit accélérée. Et ça, il n'y a aucun problème en morale. Parce que ce n'est pas l'objectif. Donc... Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je ne sais pas si je vous ai dit ce qu'il fallait que je vous dise, je n'ai pas du tout regardé mes notes, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, je pense que dans notre situation de la France, de notre société, le combat est perdu. Du point de vue social. D'abord parce qu'on nous manipule les chiffres, parce qu'évidemment, si vous demandez, vous faites un sondage en disant est-ce que vous êtes favorable à l'interruption d'une vie quand elle est dans la souffrance ? Bon, tout le monde, vous voyez, dans l'émotion. Les gens qui réfléchissent pas. Donc on a 90% des gens qui vont dire oui, oui. Bon. Donc tout est un peu truqué, et puis ça fait quand même quelques années que le travail se fait. Bon. Donc on nous annonce la loi pour fin août. En revanche, ça n'est pas gagné du point de vue médical. Les médecins, les infirmières, les associations sont en train de se rebeller en disant nous, on ne veut pas porter cette responsabilité et on ne veut pas être assimilé. C'est contraire à notre... De façon très majoritaire, les médecins ne veulent pas. Alors c'est quand même compliqué, hein, parce que, je vous disais tout à l'heure, la mort, on a du mal à savoir quand est-ce qu'elle vient. Et quand on est à l'hôpital, c'est aussi assez difficile, même si l'expérience fait que on sait en gros. Et au moment où je vous parle, à 13h, j'ai eu un coup de téléphone de la réanimation de Cochin pour une dame à qui j'ai donné le sacrement des malades vendredi. Ils m'ont dit, voilà, elle va mal, ils vont l'extuber. Et alors j'aurais dit, écoutez, on peut revenir, mais je lui ai donné tout ce qu'il fallait déjà. Mais effectivement, on peut revenir. Donc il y a quelqu'un qui va aller prier à côté d'elle, la bénir. Et puis l'interne était capable de me dire, ce soir, elle devrait être morte ce soir. Vous voyez, ils sont capables d'évaluer ça. Mais au moment où je vous parle, elle est peut-être encore vivante, hein. Et puis ils vont l'accompagner jusqu'au bout. Si ce n'est qu'ils savent qu'ils ont posé un geste qui font qu'ils ne soutiennent plus la vie. Mais ils n'ont pas posé un geste pour la tuer. C'est totalement différent. C'est ils ont fait un diagnostic, un constat, que c'était fini. On ne pouvait plus imaginer retrouver cette dame en bonne santé. Et ils disent que ça ne sert à rien de continuer. Et alors évidemment, c'est ça qui est compliqué à évaluer. Mais moi, je fais confiance aux médecins dès lors que je sais qu'ils ne tuent pas. Et donc c'est eux qui vont dire, faut pas faire d'acharnement. C'est absolument évident. La loi Clay-Leonetti avait introduit un élément déraisonnable. Il faut pas qu'on soit dans le déraisonnable. C'est très sage. Alors vous voyez, les cas vont être un petit peu personnels. On peut pas généraliser. Évidemment, on va pas avoir le même regard sur une dame de 90 ans ou un monsieur de 90 ans et un jeune de 18 ans. J'ai aussi une anecdote mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ma fameuse petite sœur, chirurgien thoracique, quand j'étais aumônier à Stanislas, il y a un internat, et un dimanche après-midi, les garçons jouaient au foot sur le terrain, tac, tac, paf, il y en a un qui s'arrête un peu plus tôt que les autres parce qu'il était fatigué, il s'arrête sur le bord du terrain, puis finalement il leur dit à ses copains, je monte prendre ma douche. Alors ils montent, et puis quand les autres ont arrêté le match 5 minutes après, ils sont arrivés, puis il était allongé dans le couloir. Ils ont eu l'instinct immédiat de faire un massage cardiaque. Vous êtes habité, vous détectez qu'il se passe quelque chose de grave. Et comme ils étaient dans une superbe école, hop, la première personne qu'ils ont appelée, c'est le prêtre. C'était pas mal, mais. Alors du coup, c'est le bon père qui est arrivé, qui était un prêtre en soutane. Et puis ils ont appelé le SAMU. Donc ce bon père a pu bénir ce garçon. Le SAMU l'a massé pendant 20 minutes dans le couloir. Puis au bout de 20 minutes, ils l'ont emmené à l'hôpital. Moi, je sortais de la messe, c'était un dimanche soir. Et donc, je sors de la chapelle où je célébrais la messe avec tous les autres. Et puis, donc, c'était ceux qui n'étaient pas cathos, qui jouaient au foot. Et donc, je sors, et puis là, ils se précipitent sur moi. « Ah, monsieur l'abbé, est-ce que vous êtes au courant ?»« Olivier, c'est l'anniversaire de son décès. » Oui. J'ai mis un message à sa maman ce matin. Je me dis, qui pense, c'était en 2003, vous voyez, peut-être il y a 20 ans. Qui pense à ses parents 20 ans après dans l'école? Il n'y a que le curé. Hein. Bon, tout ça pour vous dire que du coup, Samu le prend, tac tac, et puis il l'emmène. Bon, et alors ils me disent, oui, c'était son cœur, tout ça. Moi, je dis, tiens, avec un peu de chance, il va atterrir dans l'hôpital où il y a ma sœur. Donc j'appelle ma sœur. Quand même, c'était l'hôpital Pompidou. Donc c'était un hôpital où, a priori, des urgences comme ça peuvent arriver. Donc j'appelle ma sœur, je lui dis, écoute, il y a un garçon qui vient de faire je sais pas quoi, un truc du cœur, le Samu vient de le prendre, il l'emmène, est-ce que tu peux faire gaffe? Elle me dit, d'accord, d'accord. Elle appelle l'hôpital, et puis elle n'était pas de garde à ce moment-là. Puis elle me rappelle 5 minutes après, elle me dit, effectivement, il est arrivé chez nous. Bon, je lui dis, écoute, tu me tiens au courant, mais tu te barres. Hein. D'accord, d'accord, je les préviens. Bon, alors, et elle prévient le bloc opératoire, et elle leur dit, écoutez, si vous n'arrivez pas, vous m'appelez. Elle me rappelle une heure après, puis elle me dit, bon, écoute, ils viennent de m'appeler parce qu'ils n'y arrivent pas, j'y vais. Je dis, bah, génial, si j'aille à ma sœur dans la salle d'op, ça me rassure. Puis elle me rappelle une heure après, puis elle me dit, tu sais, Guillaume, on n'y arrive pas. Mais bon, il a 18 ans, c'est un de tes élèves, on va se battre. Cette réflexion, elle fait réfléchir. Hein. Et j'ai aimé qu'elle le dise. Puis elle me rappelle à minuit, puis elle me dit, écoute, Guillaume, on ne comprend pas. Ça fait 4 heures qu'on se bat, son cœur ne repart pas. On a regardé l'horloge dans le bloc opératoire, on a dit, il est minuit, il est mort. Elle aurait pu se battre encore une heure, peut-être deux heures, peut-être que son corps aurait pu redémarrer, enfin, vous voyez, peut-être. Bon. C'est quoi le déraisonnable? C'est évident que ça aurait été le vieux prêtre en soutane, qui avait 85 ans, qui aurait fait une crise cardiaque. J'aurais aussi appelé ma sœur en disant, dis donc, il arrive à l'hôpital, ben, je ne serais pas battu. Vous voyez, elle m'aurait tout de suite téléphoné en disant, mais écoute, il est mieux au ciel. Et je dis, ben, t'as raison. J'en suis persuadé, hein, je vous le dis avec l'émotion d'un prêtre qui vient de perdre un de ses meilleurs amis. Vous avez peut-être entendu parler de l'abbé Gordien, donc ce curé de Saint-Dominique, 48 ans, qui est mort il y a 15 jours. Bah, c'est agaçant quand même. Hein. 48 ans. Vous dites, écoute Seigneur, c'est quoi cette blague? Bon, en même temps, il est mieux là-haut. Hein. Hier, je prêchais dans la paroisse, et je disais aux paroissiens, c'est la première semaine sainte qui va vivre au ciel. Ça doit être quelque chose quand même de la vie avec Jésus-Christ, la Sainte Vierge, Jean-Paul II. Vous savez, oui. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on y aille tout de suite, hein, mais justement, je ne sais pas pourquoi on est encore là, nous. C'est le mystère de la mort. Et profitons de chaque instant que le bon Dieu nous donne. Enfin, je voudrais finir en vous disant deux choses. La première, c'est... Dans trois choses. La première, c'est préparer votre mort. N'ayez pas peur d'en parler, voyez, sachez dépasser cette émotion, préparez la messe, parlez-en à vos enfants, petits-enfants, enfin, sachons intégrer la mort, qu'ils sachent ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait. Bon, après, ils feront ce qu'ils voudront, de toute façon, nous, on sera dans la boîte. Donc. Mais c'est tellement plus agréable que d'avoir pu préparer les choses et de les avoir vécues ensemble, du coup, on va mieux les dépasser. Et donc, préparez votre mort et osez la préparer sans attendre forcément le dernier quart d'heure. Parce qu'évidemment, on a dans l'idée que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, osons en parler de temps en temps. Il y a un âge à partir duquel bon, ça devient prudent que de la préparer. La deuxième chose, c'est sachez dire à un familier qui meurt, sachez l'autoriser à mourir. Ne retenez pas vos proches qui s'approchent de la mort. Accompagnez-les, soyez fidèles, donc présents, mais autorisez-les à partir. Vous voyez, notre affection fait que dans l'émotion, on va tenir la main de la personne, on va l'embrasser, puis on va insister en disant « ne meurs pas, je ne veux pas que tu partes, ça me fait trop mal. » Bon, ce qui est magnifique. Mais ce n'est pas le moment de retenir la personne. Au contraire, il faut lui dire « écoute, on t'aime tellement qu'on n'a qu'une envie, c'est que tu restes, mais quand tu es prêt, vas-y, ne t'inquiète pas de nous. » Et puis nous, on s'occupera de la terre sans aucun problème, enfin. Puis on dépassera cette épreuve. Et la troisième chose, c'est soyons des témoins de la résurrection. Nous avons, nous les chrétiens, un regard sur la mort qui est unique. Parce qu'on parle de la vie éternelle. Et c'est ce qui donne une dignité incroyable à la personne humaine. Quand vous êtes confronté à des gens qui pensent qu'ils vont se réincarner, ou qu'ils inventent des théories pour essayer de trouver une solution d'espérance. Moi, ça me ferait peur quoi, de me dire je vais redevenir une souris. C'est pas possible. Non. Je serai moi. Mon corps va se décomposer et à la fin du monde, je sais qu'on va ressusciter. Alors bon, à quel âge? Je sais pas. Est-ce qu'on va ressusciter avec nos rhumatismes, avec nos prothèses, avec... Je sais pas. On va ressusciter comme Jésus est ressuscité, avec un corps glorieux. Donc il sera forcément beau, il sera magnifique. Il fonctionnera correctement, on n'aura plus tous les petits problèmes qu'on a et qu'on accumule avec l'âge et dents. Bon, en tout cas, on sera une personne humaine. Et le propre d'une personne humaine, c'est d'être un corps et une âme. Notre corps, c'est pas une enveloppe qu'on jette quand on est mort. C'est ce qui nous a permis d'aimer la personne. C'est la personne elle-même. Bon, sauf que là, le corps est inanimé. Donc il y a une manière de le considérer. D'où l'importance de veiller à un mort, de prier à tout côté du cercueil, et si possible d'éviter l'incinération. Quand on ne peut pas l'éviter, c'est pas grave. Mais c'est tellement plus respectueux d'enterrer un corps. Alors, évidemment, ça coûte plus cher. Donc aujourd'hui, on a plus tendance à incinérer. Mais on ne fait qu'accélérer la décomposition. Mais vous voyez, c'est encore une manière de prendre la main sur la nature. Laissons la nature faire. Aimons nos morts. Visitons les cimetières. Gardons cette espérance. Je finirai. C'est exactement ce qu'on a célébré hier, avec les rameaux. Vous savez que la symbolique du rameau, c'est d'être cette branche verte que l'on met sur un crucifix. Parce que la croix donne la vie. Donc ce n'est pas un arbre mort, la croix. C'est l'arbre sur lequel Jésus est mort, mais qui donne la vie. D'où ce rameau béni, qui est une branche verte. Je vous en supplie, virez de vos crucifix les rameaux jaunis, qui sont depuis 20 ans et que vous n'avez pas retirés. Cramez-les et mettez-moi une branche verte. Sinon, c'est que vous manquez de foi à la résurrection. Ou c'est que vous ne faites plus attention au crucifix qui est accroché dans votre champ. Mais vous voyez, les chrétiens, on a un regard extraordinaire face à la mort. On n'échappera pas aux larmes, comme la Vierge Marie. C'est quand même consolant de se dire que même Marie a pleuré. On a le droit de pleurer. Il faut même. Vous savez que en Terre Sainte, du temps de Jésus, on calculait le poids d'affection d'une épouse pour son mari aux outres de larmes qu'elle versait. Et donc il y avait des petites fioles qu'on retrouvait dans les tombes, des petites ampoules, mais comme des outres... Et qu'on mettait sous la paupière, puis on recueillait les larmes, et puis ça remplissait l'outre, et alors on savait si elle aimait beaucoup son mari ou elle aimait pas trop son mari. Donc n'ayons pas peur de pleurer. C'est aussi une manière d'extérioriser l'amour qu'on a pour la personne et la peine, le poids. Mais méfions-nous de la tristesse. Vous voyez, acceptons la douleur, acceptons la peine, mais méfions-nous de la tristesse. On a une telle espérance, une telle force. Et du coup, ça va nous habiter pour trouver les solutions face à la mort qui se présente. Trouvons des solutions humaines et soyons pas étonnés que ce soit les chrétiens qui les inventent. Amen. Je ne sais pas si je vous ai dit tout ce qu'il fallait. Allez-y, oui, maintenant, posez des questions, parce que c'est en parlant qu'on réfléchit ensemble. Hein. N'hésitez pas. Je ne suis pas sûr de vous avoir dit des choses très originales, hein, mais...
Vous avez évoqué
Alors, elles sortent des études que j'ai lues. Alors, je n'ai pas les chiffres, moi, sous les yeux et les statistiques, mais vous les trouvez sur Internet, hein, chère madame. En tout cas, dans tout livre qui va vous parler de l'euthanasie ou des soins palliatifs. Si vous allez sur l'association de Claire Fourcade, qui est la présidente des soins, la société d'accompagnement et des soins palliatifs en France. Bon, voilà, c'est une association qui défend les soins palliatifs. Je suis sûr que là, vous aurez les statistiques, les études. Mais c'est assez consolant parce que, au fond, c'est normal. On voit bien, c'est comme un enfant, quand il a mal, il pleure et puis maman lui embrasse le bobo et il a plus mal. Ouais, c'est quand même bizarre. Ben, c'est pareil quand vous êtes dans la souffrance à la fin de la mort. Mais si on vous enlève la douleur et qu'on met de l'amour, vous n'avez plus envie de mourir. Vous savez que la mort vient. Donc, il faut la laisser venir. Mais il ne faut pas en avoir peur. Bon, c'est facile à dire. Mais quand on s'y prépare, je vous assure qu'on n'en a pas peur. Puis quand même, le jour où Salut Marie, on l'évoque à chaque fois, quoi. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Cher monsieur.
Quels sont les nouveaux points qu'ajoute la nouvelle loi ? Qu'est-ce qu'elle ajoute par rapport à la loi Leonetti ?
Eh bien, c'est ça qui est pervers, c'est que la loi Leonetti, c'est plutôt une très bonne loi. Bon, même si elle facilite déjà un peu quand même. Mais si vous voulez, elle respecte. La loi Leonetti n'autorise pas à mettre un produit létal. Alors que ce que veut faire M. Macron, c'est ça. C'est autoriser les médecins à mettre un produit qui tue. Bon, ça, c'est l'euthanasie. Ou bien à donner le produit à la personne pour qu'elle se tue elle-même. C'est ce qu'ils appellent le suicide assisté. Ça, c'est vraiment vous voyez, le cap supplémentaire. Et, alors sans rentrer dans des combats politiques, c'est la loi sociétale que le président de la République veut faire pendant son quinquennat. On a eu le mariage gay, on a eu le mariage machin. Bon, Macron veut marquer son quinquennat avec l'euthanasie. Il l'a dit. Bon, derrière, vous avez des lobbies d'une puissance incroyable, francs-maçons, c'est un marqueur social pour eux. Parce qu'il y a un combat d'idées derrière, il y a un combat religieux, bien sûr. Exactement comme l'avortement. L'avortement, il n'y avait pas une demande considérable de la société, à la différence de l'euthanasie, là. Mais parce que ça fait de nombreuses années que cette... Et puis tout le monde a peur de la mort, tout le monde a peur de la souffrance. Donc la loi Claeys-Leonetti, elle avait pour nouveauté de parler, d'éviter les traitements déraisonnables. Donc c'était une nouvelle appellation par rapport à l'acharnement thérapeutique. Avant, on parlait d'acharnement thérapeutique. Avec la loi Claeys-Leonetti, on parle de traitement déraisonnable, ou vous voyez, de thérapeutique déraisonnable, ce qui est probablement plus doux que de parler d'acharnement, et ce qui est plus vrai. Il faut rester dans le raisonnable. Parce que du coup, vient dedans précisément l'âge. On ne se bat pas de la même manière en fonction de l'âge, en fonction de plein de principes. Une personne qui a déjà 15 maladies et qui est en risque mortel d'une vie là, on ne va pas forcément se battre comme des fous alors qu'elle a déjà 15 maladies à gérer. Vous voyez, alors que vous avez un jeune de 18 ans qui est en pleine santé. Donc le déraisonnable est très intéressant. Et le deuxième élément de la loi Claeys-Leonetti, c'était d'introduire la sédation longue et prolongée, c'est-à-dire le fait de franchir. Vous avez soit la sédation palliative, c'est-à-dire on endort la personne de façon provisoire, puis on va la réveiller. Bon, c'est donc une sédation de confort, le temps que la souffrance passe, on va faire des paliers. Soit vous avez la sédation longue et prolongée, qu'autorise Claeys-Leonetti, c'est-à-dire vous engagez un endormissement du malade et vous savez que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous avez provoqué un tel endormissement que vous avez fait des dégâts et donc il ne faudra surtout pas le réveiller. Donc on sait que... Voilà. Mais ça, il l'autorise et de fait, c'est faisable quand vous êtes précisément, par exemple, en réa et que vous savez typiquement que la personne ne fonctionne qu'avec un appareil. Vous allez la débrancher, enfin l'extuber, fait que ça va être inconfortable pour elle, elle va s'étouffer. Le temps qu'elle s'étouffe, mais de toute façon, il n'y avait aucune chance qu'elle vive, vous pouvez l'endormir. Et donc, elle ne sera pas consciente. Ça, c'est un élément auquel il faut être conscient quand je vous ai dit « préparez votre mort ». Soyez conscient que sur la fin des vies, moi je le vois à l'hôpital, c'est toujours un peu troublant, on a un peu le sentiment qu'on vole la mort des patients. Parce que vous rentrez à l'hôpital, bon, vous étiez malade, vous êtes rentré parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À l'hôpital, on va essayer de vous soigner, évidemment. Et puis, les médecins ne vont pas venir dans votre chambre en vous disant, vous savez, c'est dans 15 jours que vous allez mourir. Eux-mêmes se battent. Mais en se battant, ils vous mettent des produits qui vous affaiblissent. Et puis, eux vont commencer à sentir que, bon, c'est mal parti. Ils vont un peu vous prévenir, ils vont un petit peu vous en parler. Mais eux-mêmes, pour eux, c'est désagréable et détestable de dire aux malades, bon, c'est foutu. Donc ils ont toujours un petit côté, alors ils ne vont pas rentrer dans le déraisonnable, mais... Et puis le malade, lui, il s'épuise, il se fatigue, et puis avec les produits qu'on donne, il dort, et puis finalement, il y a un moment donné où il se met à dormir, et puis on n'a jamais parlé vraiment de la mort. Et puis, ben, voilà, il va dormir pendant les 3, 4, 5 derniers jours, 8 derniers jours, il dort, et puis, ben, On donne des produits pour qu'il dorme de telle sorte qu'il soit apaisé, qu'il ne souffre pas. Mais du coup, on ne peut plus lui parler. Et c'est toujours un peu... Enfin, vous voyez, et on ne sait pas à partir de quel moment le malade va s'endormir. Quoi. Je l'ai vécu avec le fameux abbé Gordien, ce très bon ami. Alors, je l'ai vécu de façon très paisible, justement. Parce qu'il est mort un mardi soir. Bon, il avait un cancer foudroyant, hein, en un an. Et le lundi soir, la veille au soir, avec sa maman, on est allé le voir. Voilà, il a passé les derniers jours de sa vie à l'hôpital. Ce qui est aussi assez troublant, parce que 2-3 mois avant, on savait qu'il mourrait. Je lui avais demandé, Cyril, où est-ce que tu envisages de mourir? Il faut que tu nous dises. Parce que quand tu seras fatigué ou que tu ne sauras plus, et étant plutôt déjà malade et sachant qu'il mourrait, mais vous voyez, bien portant dans cet état, il voulait mourir chez lui. Et c'était très clair. Et je lui dis, il n'y a aucun problème. C'est plus facile pour un prêtre de mourir chez lui parce qu'il y aura 50 paroissiens qui vont se battre pour être présents dans ta chambre. Alors que pour quelqu'un d'entre nous, enfin moi je suis prêtre, mais vous voyez, vous avez votre mari, ou votre épouse, puis vos 4 enfants. Donc ils vont s'épuiser si vous durez 15 jours. Donc c'est plus difficile pour un être de famille, mais pour un prêtre par exemple qui est dans sa paroisse, bah, je dis, il n'y a aucun problème. Et finalement, quand on s'est approché de sa mort, il ne voulait plus. Il voulait être à l'hôpital. Ce qui m'a beaucoup, pas perturbé, mais ça m'a beaucoup interrogé en me disant... Quand on sent la mort venir, il était plus apaisé d'être dans un cadre médicalisé où finalement, c'est aussi son humilité et puis son tempérament qui fait qu'il ne voulait pas déranger. Donc il était plus tranquille à l'hôpital. Bon. Déjà, ça, c'est un raisonnement qui m'a étonné parce que vous voyez, à 2 mois près, il n'avait plus le même avis. Et ma sœur, toujours la même, qui est médecin, m'avait dit, tu sais, Guillaume, fais gaffe parce qu'un malade peut changer d'avis quand il est proche de la mort. Parce que l'inconfort, Bon. On vient le voir avec sa maman le lundi soir. Et voilà, on voyait bien que de jour en jour, à chaque fois qu'on venait, il s'abaissait. Enfin, il commençait à avoir un peu de mal à parler. Le lundi, vers 20h, voilà, on parlait avec lui. Puis on avait encore 2-3 trucs à régler sur sa messe, ou je ne sais plus quelles étaient les questions qu'on avait à poser, mais pleines d'affection. Et entre autres, comme les anges gardiens m'inspirent, et je lui dis « Mais dis donc, Cyril, l'année dernière, on avait fait tout un foin quand on a appris ta maladie pour que tu reçoives le sacrement des malades. » Devant ta paroisse, tu étais quand même curé de paroisse. Enfin, et alors, il se trouve qu'il connaissait le cardinal Sarah qui venait à Paris, donc c'est le cardinal Sarah qui lui a donné le sacrement des malades. Donc, c'était quand même pas un truc qui est passé complètement inaperçu. Puis là, t'es à l'hôpital, ça fait 10 jours que t'es à l'hôpital et que tous les jours, il y a un prêtre qui vient célébrer la messe dans ta chambre parce que ce sont tes amis qui sont heureux. Puis on n'a pas du tout pensé à te donner le sacrement des malades. Il faudrait peut-être qu'on y pense. À qui on va demander cette année? Puis il s'endort un peu. Puis se réveille, vous savez, 2 minutes après, croyant qu'il avait simplement cligné les yeux. Et je lui dis, alors, Cyril, je réfléchis. Bah, il était drôle, on n'a pas une semaine, hein. Dis-moi. Bon, puis il y avait sa maman, puis on blaguait, puis je disais à sa maman, mais il était comme ça à l'école. Quand le professeur l'interrogeait, il disait, je réfléchis. Bon, bref. Puis on passe à autre chose. Et puis voilà, puis on le quitte, on l'embrasse, et puis voilà, on était sûr de le retrouver le lendemain. Et le lendemain matin, à 10h, l'hôpital nous a téléphoné en disant « Venez vite, il est en train d'agonir, il est rentré dans l'agonie. » C'est-à-dire qu'on ne l'a plus revu conscient, on n'a plus pu parler avec lui. Et vous voyez, donc on ne savait pas le lundi soir que c'était les dernières paroles qu'on avait avec lui, le dernier regard qu'on échangeait. Le lendemain, quand on est arrivé, ben, il était tellement épuisé et probablement que la morphine avait fait son effet. On entrait en relation parce qu'il entendait, donc il réagissait un petit peu au son de la voix. Mais voilà, il ne regardait plus. Et ne parlait plus. Bon, et puis voilà, puis il a mis la journée. Mais quelle mort magnifique. Il y a 40 prêtres qui sont passés dans sa chambre. Vous savez, quand on prie pour la grâce d'une bonne mort, en disant pourvu qu'il y ait un prêtre qui soit à mon chevet quand je vais mourir, priez pour ça, hein. C'est un cadeau hallucinant. Que d'avoir l'absolution au moment où vous mourrez. Du coup, je lui ai donné le sacrement des malades, moi, le mardi matin. On est arrivé en courant avec sa maman. Je dis, bon, j'ai plus besoin de réfléchir, là. Je te donne le sacrement des malades, l'absolution, l'indulgence plénière à l'article de la mort. Et si je crois à ce que je fais, il est au ciel. Hein. Enfin, c'est hallucinant. Et alors lui, non seulement il y a eu un prêtre à ce chevet, mais 40. Alors, dites, l'hôpital a été renversé. Hein. Ils n'ont jamais vu autant de soutanes et de cols romains. Le médecin du service a écrit à ma sœur le soir même avec un message en disant... Écoute, vraiment, c'était extraordinaire. Ce patient a été incroyable. Les infirmières se battaient pour lui. Et puis, Et puis on n'a jamais vu autant de col roman et de soutane dans notre hôpital. Bon voilà. Pourquoi je vous parle de ça? À cause de la mort qui vient vite, enfin qui vient plutôt on ne sait pas quand. Et à l'hôpital, souvent, vous voyez, on m'appelle trop souvent trop tard pour donner le sacrement des malades, donc à quelqu'un qui est vivant, mais qui est inconscient. Et c'est dommage. Alors évidemment, il y a cette peur de dire si il est conscient, ça va révéler qu'on pense qu'il va mourir. Alors on ne veut pas lui dire qu'on pense qu'il meurt. Enfin, il s'en doute. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir parlé un peu avant, pour avoir déjà un peu désamorcé les moments, que ce ne soit pas la première fois qu'on parle de la mort. Mais nous, les chrétiens, on a vraiment un rôle essentiel face à la mort. Et pour le coup, les médecins le voient. Ils voient qu'on pleure. Mais ils voient qu'on aime. Et qu'on a de l'espérance. Et on a une force intérieure. Je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi. C'est quand même fou, la résurrection. Enfin, vous y comprenez quelque chose ? C'est incroyable.
Est-ce que dans votre expérience, vous avez été confronté à cette situation dont on parle qui justifierait est-ce que vous avez été ébranlé par des situations ?
Non. J'ai jamais été ébranlé. Enfin, je vois bien que dans les services où la mort est active, donc vous voyez la réanimation ou bien la souffrance, la détresse d'un malade, notre médecine est magnifique. Et c'est pas forcément des chrétiens, hein, mais ils se battent d'abord pour la vie. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de critères qui font qu'ils sont capables de dire, bon, on s'en sortira pas. Et donc ils accompagnent. Et ils préparent la mort de la personne. J'ai été choqué. Il y a un mois, parce que donc il y avait une dame en réanimation. Son prénom c'était Fatima. Et donc la réa nous appelle et nous disent oui, il y a quelqu'un de sa famille qui nous a dit que c'était une chrétienne. Bon, très bien. Donc je suis allé voir la dame. Et puis elle était dans le coma, puis ensuite elle s'est réveillée. Donc pendant 15 jours, on allait tous les jours prier à côté d'elle. Puis elle s'est petit à petit réveillée. Puis donc on continuait de venir prier. À côté d'elle, elle était souriante, voilà, mais elle était quand même un peu appareillée. Et puis, un jour, à l'aumônerie, l'aumônière musulmane, qui est une dame très gentille, mais vient dans notre local de l'aumônerie, bon, elle prend un café avec nous, ou un thé, je ne sais pas quoi, bon, très bien, puis elle nous dit « Oh là là, je viens voir une patiente qu'on doit débrancher ce soir, ça me fait tout drôle. Ouais, »« bon, très bien, puis ouais, c'est son affaire. » Et puis moi, dans l'après-midi, je passe en réa. Et alors déjà, le coup de s'appeler Fatima, j'avais insisté auprès des infirmières en disant « Vous êtes bien sûr que c'est une chrétienne, hein, parce que Fatima, c'est quand même un prénom musulman, mais bon, elle est peut-être portugaise. » Et la veille de ce jour-là, j'étais passé dans sa chambre, elle était consciente, il y avait trois jeunes filles autour de son lit. Je dis un « Je vous souhaite marier », elles étaient toutes contentes, gentilles. Là, donc, j'y vais. Et qu'est-ce que je vois ? L'aumônière musulmane assise sur son tabouret à côté de la malade. Bah, alors, je me dis... Mais alors, est-ce que c'est la dame qu'on va débrancher ce soir ? Enfin, bon, alors, je pose pas cette question, mais je dis, mais madame, vous êtes de confession musulmane ou catholique ? Et là, à ce moment-là, à l'unanimité dans la chambre, tout le monde me dit musulmane. Alors, j'éclate de rire. Je dis, bah, écoutez, ça fait 15 jours qu'on vient dire le jour où je vais se marier à côté de vous. Hein. Vraiment, je suis désolé, j'espère que... Non, pas du tout, on a le même Dieu. Tiens, tu parles, enfin bon. J'allais pas faire un scandale. Donc, je dis beaucoup de bien de tout ça, puis je sors, et je vais voir les infirmières, je dis, mais... C'est quand même le gag, quand même. Ça fait 15 jours qu'on vient prier. Ils me disent, bah oui, mais écoutez, on ne savait pas. Et puis, je dis, bon, mais qu'est-ce qui va se passer ? Bah écoutez, elle est consciente et on va la débrancher. C'est-à-dire que là, on est vraiment devant un cas limite d'euthanasie, vous voyez. Où elle demandait, elle écrivait sur son ardoise, elle savait qu'elle allait mourir ce soir. On est vraiment dans l'équivalent du suicide assisté, d'une certaine façon, ou de l'euthanasie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas posé un produit létal. Mais elle a demandé à mourir, ben ils ont arrêté. Même la musulmane, elle n'était pas à l'aise. Enfin, quand je dis même, c'est idiot de me dire même, mais l'aumônière musulmane, elle dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle est face à une malade consciente, souriante, qui ne souffrait pas, bon, dont la vie était probablement impossible, je crois, à terme. Mais c'est quand même... Non, ça va pas. Et l'arrêt, ils n'aiment pas ça. Hein. Ils savent. J'ai jamais été confronté à des malades qui souffraient et qu'on n'arrivait pas à apaiser. Je me suis plutôt très souvent interrogé sur les malades qui dormaient et en me disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu les réveiller ? Vous voyez, plus souvent, Et ce sentiment que du coup on n'a pas pu suffisamment parler de la mort, ça me gêne, oui. Enfin, ça m'embête. Je préfère donner l'absolution sous condition, mais à quelqu'un qui entend, et puis qui voit qu'on l'aime, et le sacrement des malades. Alors après, même endormi, il se passe des choses. Donc, de toute façon, je suis arrivé. Une fois, j'étais. Bon, là, je vous raconte des anecdotes, mais. Je traversais l'hôpital et puis il y a une dame qui se précipite sur moi qui me dit « Je suis infirmière, il y a un monsieur en réa, est-ce que vous pourriez venir ?» C'est un Américain, il est passé en France, mais voilà, il a fait un accident cardiaque, je sais pas quoi. Je dis « Bien sûr !» Alors bon, voilà, c'était foutu, ils allaient le débrancher, et donc elle m'a demandé de lui donner le sacrement des malades, je lui donne, et puis donc j'arrive dans l'après-midi ou le lendemain, je sais plus. Je rentre dans la chambre et je dis à cette dame « Bon, mais est-ce que vous savez un peu des choses de ce monsieur quand même ?» Parce que moi, je sais pas qui c'est. Elle me dit « Oui, oui, il y a son mari qui est là. » Voilà. Je me dis « Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis perdu. » Donc c'était un monsieur américain qui vivait en couple avec un autre monsieur qui était catholique américain. Je coûte Seigneur, je n'y comprends rien. C'est pas le moment de me poser la question. De toute façon, on est à l'article de la mort, il n'y a plus de loi à ce moment-là. Donc on fait tout ce qu'on peut. Je lui donne le sacrement des malades, l'absolution, et s'il peut aller au ciel grâce à ça, tant mieux. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Hein. Et on est dans des situations merveilleuses, parce que vous voyez, du coup, j'ai pas de morale, enfin, j'ai pas de complexité morale à me poser, quoi. La mort fait qu'il n'y a plus de loi. Là, j'ai le cas d'une maman qui a une tumeur probablement assez grave. Ils ont deux enfants, mais ils ne sont pas mariés tous les deux. Alors, ils sont mariés civilement, mais ils prévoyaient le mariage religieux dans quelques temps. Alors j'avais déjà introduit le truc avant qu'on sache que c'était très grave, en disant « Dites donc, il faudrait peut-être vous marier. Si jamais il faut, on peut le faire à l'hôpital. Hein. » Et je pense que je vais les marier avant qu'elles ne meurent. Quoi. Et dans ces cas-là, il n'y a plus aucune question à se poser. Je vous marie tout de suite, tac, tac. C'est tellement plus facile à l'hôpital que quand on est en paroisse. Ça, c'est le je baptise aussi, vous voyez, sans me poser de questions. Quand je vous ai raconté, j'ai eu un autre accident un jour dans ma vie, en vélo. Hop, les pompiers viennent me ramasser, et j'allais dîner chez des gens. Et le vicaire d'ici, qui était un de mes meilleurs amis, prêtre, on était ordonnés ensemble, allait dîner chez ces gens aussi. Et puis bon, il arrive chez eux en vélo, et puis moi, j'arrive pas. Et au bout d'un certain temps, ils ont dit, c'est bizarre, Guillaume nous a téléphoné en disant qu'il arrivait, et puis ça fait une heure. Et alors l'autre dit, ah, mais je suis passé devant une ambulance, il est peut-être dedans. Alors, le couple chez qui j'allais vient me voir, et puis il me voit dans l'ambulance. Je dis, bah, comment vous savez ? Il me dit, bah, c'est Philippe qui est passé à côté. Je dis, comment ça ? Il y a un ami prêtre qui est passé et qui ne s'est pas arrêté pour me donner l'extrême-onction. Je dis, non, mais celui-là, il ne faudra plus qu'il se présente à moi. Et donc, je me plains auprès de Philippe, et il me dit, mais non, mais écoute, il y a une semaine, Guillaume, il y a eu un accident devant la paroisse. Et donc, je suis arrivé, je me suis précipité en disant, est-ce que je peux donner le sacrement des malades ? Il me dit, oui. Alors, puis, il a précipité à la sacristie, il a donné le sacrement des malades, et puis l'ambulance du SAMU est partie, puis il se renseigne. Il dit, oui, il s'appelait Mohamed, machin. Donc, il avait donné le sacrement des malades à un jeune musulman à l'ambulance. Donc, il me dit, j'ai pas voulu refaire une deuxième fois. Il dit, oui, sauf que là, c'était un prêtre. Enfin, tu manques de zèle, mon vieux, parce que. N'ayez pas peur aussi de demander le sacrement des malades, et n'attendez pas l'extrême onction. C'est un sacrement tellement beau en famille. Bien sûr que c'est douloureux, parce que ça évoque le fait qu'on va peut-être mourir. Enfin, la mort, elle nous fait peur. D'accord, mais on est fait pour la vie éternelle. Il faut en parler, vous voyez, il faut le recevoir. N'attendez pas d'être endormi sous morphine. Vous risquez de ne jamais le recevoir. Pardon, madame. Oui. Alors si ce n'est qu'il faut, oui, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a cette notion de mort qui arrive, mais c'est aussi une manière d'amener la mort, justement, c'est-à-dire de dire, bon, on va tous mourir, il faut oser en parler, et de dire que ce sacrement, comme tout sacrement, il est fait pour nous soutenir dans la vie terrestre et céleste. Mais donc c'est un sacrement qui est fait pour t'accompagner dans le combat que tu mènes. Donc il est fait pour que tu vives, même maintenant. Et il y a des gens qui, en recevant le sacrement des malades, guérissent. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'âme et qui influence le corps. Donc il y a une manière de dire, tu sais, bien sûr que nos grands-parents appelaient ça l'extrême onction. Donc ça veut dire que ça fait penser à la mort. Bah, déjà, paf, c'est casé le mot mort. Impeccable. Et en plus, il est fait pour que tu vives. Donc il faudrait que tu le demandes. N'attends pas. C'est maintenant qu'il faut que tu te battes. Et il y a vraiment des libérations qui se font grâce à ce sacrement. C'est dommage de l'avoir trop tard. Parce que même la famille est apaisée. Hein. Il y a quelque chose qui se joue, vraiment. C'est un sacrement. Il y a quelque chose de mystérieux qui se joue. Ah, pardon, madame. Alors, les évêques l'ont fait. Hein. Nos évêques ont sorti un texte. Alors, ça, pour le coup, je l'ai noté. Parce que la société parle de l'aide active à mourir. C'est comme ça qu'on en parle. Et donc, les évêques ont écrit un texte qui s'appelle « L'aide active à vivre ». Un engagement de fraternité. Le 28 mars. Ils ont sorti un texte qui est fait pour nous faire réfléchir sur l'aide active à vivre. Alors, comment est-ce que l'Église peut s'imposer? Elle va s'imposer par une décision des évêques bon, qui enseigne ce que dit le catéchisme. Mais elle va surtout s'imposer par notre manière à nous de vivre. Alors, on est minoritaire désormais. Donc, c'est pas nous qui allons remporter la majorité dans des élections, dans je sais pas quoi. Mais on est quand même puissant par notre foi, par notre témoignage. Donc, il faut pas qu'on soit défaitiste. Je vous ai dit, le combat est perdu sur cette loi d'euthanasie. C'est évident que, de toute façon, par orgueil, ils vont la faire passer. Et la société la réclame. Le seul frein, je vous disais, c'est les médecins. Donc, l'Ordre des médecins, encore aujourd'hui, a sorti un communiqué en disant « Nous ne voulons pas appliquer la possibilité de tuer. » Bon, mais ils vont trouver une entourloupe, bon, et puis d'autres mots. Mais par contre, notre témoignage ecclésial. Donc, on a le catéchisme, on a la parole des évêques, mais on a surtout notre manière d'en parler, nous, d'en témoigner, nous. Dites que vous ne voulez pas être piqué. Il faut déjà en être convaincu pour nous. Hein. Si tous les cathos étaient déjà habités par cette espérance de la mort, faisant confiance à la médecine pour ne pas souffrir, ayant confié à leurs proches qui veulent mourir en étant encadrés, aimés, accompagnés, ne nous laissez pas tout seuls à l'hôpital. Dormez dans la chambre. Veillez le corps du mort. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital et puis ben, après, on est au frigidaire hein, pendant 4 jours. Ben, quand on ne peut pas faire autrement, c'est très bien. Mais c'est magnifique quand on peut ramener le corps du défunt à la maison et qu'on peut le veiller à la maison. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais... Bon, puis voilà, après, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir, il y en a d'autres, il ne faut pas non plus se prendre la tête, hein, c'est pas grave. Mais nous, chrétiens, on a une manière de vivre et de faire et de dire qui est essentielle dans notre société. Hein. Vous êtes infiniment plus puissante que ce que vous imaginez. En en parlant, en en témoignant et en accompagnant la vie. Comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule maison de soins palliatifs de l'Église catholique à Paris? C'est pas normal. Oui, mais je vous parle du diocèse de Paris. Je me bats pour ma boutique. C'est pas normal. Les fidèles devraient être les premiers à se lever et aller faire le siège de l'évêque en disant ben, « On veut une deuxième maison. Elle est rive droite, elle est rive gauche. » Je dis « Non, il faut une rive droite. » J'invente n'importe quoi, mais... Je vous en prie, madame.
Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie, écoutez.